Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler donc de la place de l'écriture sainte dans la prière. Alors ce qui me paraît important à souligner au départ, c'est qu'est-ce que c'est cette parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez fait attention dans la liturgie eucharistique, lorsque le diacre, le prêtre, l'évêque, va proclamer l'évangile, il dit « Acclamons la parole de Dieu ». Et nous, nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». La parole de Dieu, le Verbe de Dieu, c'est Jésus. Il est le Verbe fait chair, et la parole fait chair. Et donc se poser la question de la parole de Dieu dans l'Écriture, bien sûr que je vais parler de l'Écriture, mais c'est d'abord, c'est préalablement la place de Jésus dans ma prière. Et si la prière, c'est bien ce contact avec le Seigneur, ce contact avec Dieu, nous pouvons l'avoir que par Jésus, le Christ notre Seigneur, comme on le dit comme un refrain à toutes les prières de la messe et de la liturgie. Alors je voudrais vous citer Sainte Thérèse d'Avila dans Le chemin de perfection. Elle recommande à ses sœurs cet attachement à Jésus dans la prière parce qu'elle-même, elle a été mal conseillée dans son histoire sur ce point. Et elle a pensé que la prière des mystiques, c'était une prière détachée de la personne de Jésus, de l'humanité du Christ, pour être, j'allais dire, purement spirituelle. Et c'est la période de sa vie où elle a finalement arrêté de prier. Alors, fort de cette expérience, elle a, voilà, je vous cite, voilà, quelques passages du chapitre 28, si vous voulez aller chercher, dans Le chemin de perfection, donc, qui est ce long commentaire du Notre Père que Thérèse d'Avila fait à ses sœurs. Pour prier comme il convient, vous savez ce qu'on fait tout d'abord. On examine sa conscience, on récite le Confiteor et on fait le signe de la croix. C'est ça, c'est l'introduction. Aussitôt après, mes filles, appliquez-vous, puisque vous êtes seules, à trouver une compagnie. Et quelle meilleure compagnie pouvez-vous trouver que celle du Maître lui-même qui a enseigné la prière que vous devez réciter. C'est un commentaire du Notre Père. Représentez-vous ce Seigneur auprès de vous. Croyez-moi, ne négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle. Si vous vous habituez à le considérer près de vous, s'il voit que vous faites cela avec amour et que vous vous appliquez à lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Alors, je continue la citation. Êtes-vous dans la joie? Contemplez-le ressuscité. Êtes-vous sous le poids de la tristesse ou de la douleur? Regardez-le au jardin des Oliviers. Parlez-lui alors, non au moyen de prières toutes faites, mais en lui disant la prière qui remplit votre cœur. Et là, elle donne, j'allais dire, elle le fait en live. Ô mon Seigneur et mon bien-aimé, êtes-vous donc réduit à une telle extrémité que vous daignez agréer une aussi pauvre compagnie que la mienne? À l'expression de votre physionomie, je vois que vous êtes consolé de me voir près de vous. Comment est-il possible, Seigneur, que les anges vous laissent seuls et que votre Père lui-même ne vous console pas? Puisqu'il en est ainsi, Seigneur, et que vous consentez à endurer tant de souffrances par amour pour moi, qu'est-ce que j'endure pour vous? De quoi puis-je me plaindre? J'imagine qu'elle méditait plutôt la passion. Et je, dernière citation, c'est toujours dans le même chapitre, hein, chapitre 28. Cette méthode d'oraison qui consiste à se tenir dans la compagnie du Sauveur, écrit-elle, est profitable dans tous les états. Elle est un moyen très sûr pour faire des progrès dans le premier degré de raison et arriver au second en peu de temps. Elle sert aussi dans les derniers pour nous protéger contre les tentations du démon. Tel est le mode de raison par lequel tous doivent commencer, continuer et finir. Cette voie est excellente et très sûre, jusqu'à ce que le Seigneur nous élève à d'autres choses surnaturelles. Vous voyez l'insistance de Sainte Thérèse d'Avila pour que nous prions en compagnie de Jésus. Alors ce que nous allons essayer de creuser, c'est finalement comment demeurer dans cette compagnie, et comment rester en la présence de Jésus, et j'insiste, de Jésus en son humanité. Si le Verbe, si la parole s'est faite chair, c'est pour que vraiment nous puissions la connaître dans tous ses détails, dans tous ses aspects, que rien ne nous échappe. Alors on n'a pas fini de la scruter, mais nous la scrutons au contact de la personne du Christ, telle qu'elle se donne à connaître à nous, et donc dans son humanité. Alors, je vous ai annoncé dans mon message que j'allais prendre le chapitre 14 de Matthieu. Alors, la vraie raison, il y a plusieurs raisons. La raison circonstancielle, c'est que j'ai dû travailler ce texte pour un mariage où je suis allé pendant les vacances. Et en pensant à vous, je me suis dit, tiens, finalement, c'est un bon exemple de prière. Parce que dans ce texte, Jésus cherche à prier. Et en même temps, ben vous allez voir avec ses disciples, je trouve que c'est un peu une parabole, ce qu'il demande à ses disciples est un peu une parabole de ce que c'est que cette oraison. Alors le chapitre 14 de Matthieu, c'est la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez, va être arrêté, il fait des reproches à Hérode, il lui reproche d'avoir épousé la femme de son frère. Et puis finalement, la fille de la femme de son frère va demander sa tête lors d'une fête, et Hérode ne voulait pas le faire, mais il va quand même le faire à cause de ce lien justement à cette femme. Et Jésus vient d'apprendre cela. Et apprenant cela, il se retire en barque, traverse le lac, dit l'Évangile, on ne sait pas où il était, pour un endroit désert. Malheureusement pour lui, vous voyez, ça c'est son choix. Voilà. Jésus a décidé de se retirer dans un endroit désert, comme il le fait à plusieurs endroits de l'Évangile. Il trouve qu'à l'arrivée, de l'autre côté du lac, les foules l'attendent. Elles l'ont vu partir, et elles l'attendent. Et il ne va pas les renvoyer tout de suite. Il va les accueillir, il va guérir des infirmes, dit-on, et comme il est tard, il va nourrir les foules. Et c'est donc une multiplication des pains. Mais très vite après la multiplication des pains, il n'a pas perdu ce qu'il veut faire, il renvoie les foules, et très curieusement, il oblige, c'est le verbe, il oblige les disciples à remonter dans la barque par laquelle il est venu, et à l'attendre de l'autre côté du lac, pour partir sur la montagne pour prier. Alors je trouve que c'est quand même assez intéressant, parce que Jésus est déterminé à prier. Maintenant, il est sollicité dans sa propre mission, il est venu pour annoncer le royaume, pour guérir, etc. Il ne se dérobe pas, mais il ne perd pas de vue son être même, sa communion avec Dieu, dont il a besoin, et moi j'ajouterais même, parce qu'il est homme qu'il prie. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est toujours dans la communion avec le Père. Mais à cause de son humanité, il vit sa communion avec le Père dans l'exercice de la prière. Vous voyez, il prend notre chemin. On pourrait dire que Jésus n'avait pas besoin de prier, puisque Jésus est toujours en communion avec le Père. Mais s'il prend le chemin de la prière, c'est précisément parce qu'il s'est fait homme. Et il nous montre en cela le chemin. la première remarque que je vais faire sur cet événement. Alors ensuite, ce que je prends comme une parabole de l'oraison, c'est cette traversée. Voilà que les disciples obéissent à la parole de Jésus, obéissent au Seigneur. Et un peu comme nous quand nous prions, c'est lui qui nous invite à prendre contact avec son Père. C'est lui qui dit que dans ce contact, nous trouverons de quoi vivre. Vous voyez, comme un ange, on trouve nos vitamines, notre corps a besoin. Par ce contact avec Dieu, Jésus nous dit que nous trouvons ce dont nous avons besoin pour ici-bas, nourriture spirituelle. Il oblige ses disciples à monter dans la barque, et voilà que, au milieu de la mer, au milieu de la nuit d'ailleurs, le temps va se lever. Alors, ça c'est dans l'évangile de Matthieu. Les vents leur sont contraires, et que va faire Jésus? Il va les rejoindre. Dans l'évangile de Marc, Marc nous dit, le soir venu, la barque était au milieu de la mer, donc c'est le passage parallèle, et lui seul à terre, voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Et ce petit détail de Marc me confirme l'interprétation que je voulais vous faire de Matthieu, c'est que si Jésus envoie ses disciples sur l'autre rive, il n'est pas en dehors de l'embarcation. Le fait pour les disciples de partir les sépare de Jésus. Ils n'expérimentent pas sa présence. Exactement comme nous n'expérimentons pas sa présence depuis qu'il est monté au ciel. Nous sommes donc dans la barque, figure de l'Église, sur l'eau, figure de tout ce qui est le mal, ce qui nous fait peur. Il ne faut jamais oublier que le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple de marins. L'eau, c'est vraiment le symbole du mal, de l'enfer, de tout ce que vous voulez, mais de la mort. Voilà. Ils ne sont pas rassurés en mer. Le fait d'ailleurs que Jésus marche sur l'eau est une révélation de sa domination sur le mal. Il a vaincu le mal. Pas seulement sur la création. Les disciples sont tout seuls dans la barque, mais Jésus qui prie, Jésus qui est sur la montagne, qui est en communion avec le Père, il voit que nous ramons, c'est qu'à venir. Il voit que les vents sont contraires. Et il les rejoint. Et il les rejoint. Et une fois qu'il les rejoint, les disciples ne vont pas arriver au bout. Les disciples, dans l'évangile de Matthieu, c'est plus détaillé, pris par leur angoisse, par la peur, etc., ne vont pas le reconnaître. Ils vont se dire que c'est un fantôme. Alors qu'ils viennent de le quitter. Ils n'ont pas de doute sur son aspect physique, il n'est pas transfiguré. Simplement, le fait qu'il... Voilà. Alors, il l'interroge. Et c'est là que commence le salut, et c'est là que pour nous, c'est important dans notre prière, il lui parle. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi. Alors, certes, la demande de Pierre est un peu farfelue, on pourrait dire. Mais bon, ça peut nous arriver, nous aussi, de faire des demandes pas très glorieuses. Il y répond. Viens, dit-il à Pierre. Pierre va y aller, un peu le défi, la preuve. Bon, malheureusement, il va douter, il va s'enfoncer, et le Seigneur va le relever. Il peut arriver que dans notre prière, nous sortions de la barque. Il peut arriver que dans notre prière, nous sortions de la barque. Alors, la barque, c'est une des figures de l'Église, et on peut sortir des clous, si je puis dire. On peut vivre une période de doute, ne plus assumer, j'allais dire, la foi de l'Église, ou du moins ne plus éprouver cette communion, et donc vraiment éprouver cette solitude qu'ont éprouvé les disciples au milieu de la mer. Et finalement, demander au Seigneur de... Enfin, on est tellement perdu de toute façon dans la barque qu'être dedans ou dehors, c'est pareil, de toute façon, on est perdu. Donc, vous voyez, on peut en sortir. Ce qui sauve Pierre, c'est le dialogue dans lequel il était avec Jésus. Parce que dans ce dialogue, il a pu dire, viens, sauve-moi. Il avait cet acte de foi de base dans la présence de Jésus, dont il a douté au début. Et dont d'ailleurs il demandait une preuve dans cet acte de le faire marcher sur les eaux. Et il va avoir la certitude de la présence du Seigneur quand le Seigneur va sortir de l'eau, et quand une fois dans la barque, ils vont se prosterner devant lui. Ils vont donc poser un acte de foi. L'acte d'adoration, c'est vraiment l'acte de foi en tant que tel, on pourrait dire à l'état pur, qui va leur donner véritablement de communier au Christ, et donc de pouvoir accomplir ce qu'il leur a demandé, c'est-à-dire de finir la traversée. Parce que dans l'évangile de Jean, et je souligne un autre point, mais dans l'évangile de Jean, quand ils l'abordent, comme par enchantement, ils sont déjà sur l'autre rive. Voilà. Mais dans l'évangile de Marc comme de Matthieu, ils ont continué avec lui. Alors quelquefois, peut-être on pourrait interpréter ça comme l'extase, d'être arrivé directement sur l'autre rive, mais plus habituellement, si vous voulez, c'est cette présence du Christ qui nous donne d'arriver au but. Alors, qu'est-ce que je tire pour nous dans l'exercice, c'est un exercice de la prière silencieuse et dans ce rapport à la personne de Jésus et à sa parole? Je tire une première chose, c'est que Jésus est présent à notre prière. Et qu'il soit sur la rive, qu'on éprouve sa présence lointaine, qu'il soit dans la communion du Père, je ne sais où, ou qu'il vienne à notre rencontre, il est là. Il est là. Il voit ce que nous faisons. Il est présent, celui dans la compagnie dans laquelle nous nous tenons, nous rappelle Thérèse d'Avila. Ça, c'est un préliminaire important. Il faut croire à sa compagnie. Ensuite, pour cultiver cette compagnie, et précisément parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il n'est pas là, alors il faut nourrir notre intelligence, notre mémoire. Et il y a plusieurs moyens de le faire. Pour pouvoir reconnaître Jésus qui vient en marchant sur les eaux, c'est quand même pas banal, pour croire à cette proximité de Jésus, il faut, comme Pierre, interroger Jésus, est-ce bien toi ? Et croire à sa capacité de, alors en l'occurrence de Pierre, de faire un miracle, et de le tirer de là. Il le croit, il le pose cet acte, c'est ce qui va lui permettre de le reconnaître, c'est l'étape. Nous, concrètement, pour reconnaître cette proximité de Jésus, eh bien, il nous faut retrouver dans ce que nous connaissons de lui, alors il y a plusieurs manières, il y a notre mémoire, il y a la lecture d'un évangile. Tout à l'heure, pour nous aider dans le temps de prière, je prendrai l'évangile du jour. Mais on peut prendre l'évangile du jour pour nous placer en sa présence, vous voyez, et chercher, si c'est ça dont nous avons besoin, si nous avons besoin, par exemple, de nous affermir dans cette foi, en sa compagnie, dans le fait qu'il puisse être présent à nous-mêmes, on peut alors lire l'évangile du jour et chercher en quoi, dans ce passage d'évangile, nous sommes renforcés dans cette foi en sa présence. Là, ça c'est un travail de l'intelligence. On peut aussi faire passer en revue notre mémoire évangélique et nous dire où est-ce que Jésus a été présent, par exemple dans une situation de détresse, si moi je suis dans une situation de détresse. Où est-ce que Jésus a partagé une joie si, au moment où j'entre dans la prière, je suis dans la joie? Nous mettre en présence du Christ, de la personne du Christ, au moyen d'un moment de sa vie que je connais. Que je connais soit déjà, qui est déjà dans ma mémoire, ou que je connais en le laissant revenir à ma mémoire, en revenir à moi, par la lecture d'un texte. Ce qui compte, ce n'est pas la lecture du texte, ce n'est pas l'exercice de mémoire, c'est de nous tenir dans la compagnie de Jésus. Et alors à ce moment-là, la place de sa parole, la place finalement de ce qu'il est, au moyen de ma mémoire, de mon intelligence, de mes yeux si je lis, me place dans la foi, dans cette relation. Alors, ça c'est le moment du début de l'oraison. Ensuite, le travail va consister à demeurer dans cette présence. L'arrivée, si vous voulez, de Jésus dans la barque. Jésus dans la barque. Il y a d'autres passages dans l'Évangile où Jésus est dans la barque. On nous dit qu'il est sur le coussin. Il n'a jamais ramé Jésus. C'est toujours les autres qui ont ramé. Jésus est à la place du skipper, de la barre. Et d'ailleurs, le skipper ne tient pas toujours la barre. Mais c'est celui qui dit à celui qui tient la barre où est-ce qu'on va. Jésus dans le bateau, même quelquefois, il dort. C'est bien pour dire que nous ne sommes pas dispensés du travail, que ce qui nous fait arriver. Alors, la traversée, ça peut être le travail que nous avons à faire pour rejoindre le rivage, le lieu où il se tient. Hein, c'est sur le rivage que le ressuscité va se donner à connaître aux disciples. C'est bien sur le rivage qu'il a donné rendez-vous là à ses disciples qu'il envoie dans la barque. C'est sur le rivage qu'il appelle ses premiers disciples. Le rivage dans la Bible, c'est le lieu où nous choisissons Dieu. Parce que c'est le lieu de séparation, la plage, la plage, c'est le lieu de séparation entre la mort, les eaux, et la terre, la vie. Israël espère dans la terre. Je vais vous donner une terre, c'est un symbole du salut, la terre. Et l'eau, c'est un symbole de la mort. Donc, quand on est à la limite, il faut qu'on se détermine, où est-ce qu'on veut aller. Donc, quand on traverse un lac pour rejoindre un rivage, c'est bien qu'on... Voilà, on veut aller sur la terre. Donc, voilà, symboliquement, bien sûr, ça peut être le symbole de notre élan vers Dieu, mais ça peut être aussi notre traversée, la vie. Et notre prière est le fait de ramer pour arriver sur le rivage, arriver à la rencontre avec le Seigneur, vous voyez. L'oraison est un travail condensé du travail de toute notre vie. Et quand je dis que c'est un exercice, c'est parce que c'est finalement toute notre vie qui a à être vécue dans cette compagnie du Christ. Et c'est ainsi, par lui, avec lui et en lui, que nous entrons en communion avec le Père, au ciel. Voilà. Alors, on peut... demeurer dans cette compagnie, pour rester en cette présence de Christ, donc utiliser la parole de Dieu. Vous allez me dire, dans la Bible, on ne parle pas que de Jésus. Et moi, je vous ai dit que Jésus était la parole de Dieu. Bien oui, vous pouvez lire le livre de la Genèse pour vous aider à vous mettre en présence de Jésus. Ça demande un petit exercice. Ça demande l'exercice d'essayer de recevoir cette parole à la lumière de Jésus. Jésus accomplit les Écritures. Toutes les Écritures parlent de lui. Donc il se peut, par exemple, qu'il y ait des livres, je ne sais pas, moi, le livre d'Osée, le livre d'Isaïe, les prophètes, vous voyez, que vous soyez savoureux, vous les avez entendus à une messe, vous vous dites, tiens, ça peut peut-être m'aider à me situer en présence du Seigneur. Cherchez dans cette parole de l'Ancien Testament comment elle éclaire la personnalité de Jésus. Ne quittez pas la personne de Jésus. Alors c'est plus facile, par exemple, avec les psaumes. Jésus lui-même les a priés, les a illustrés. Vous voyez, alors j'en prends un très facile. Bien connu, le Seigneur est mon berger. Tiens, n'a-t-il pas dit je suis le bon berger ? Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Si vous êtes attentif à la multiplication des pains, vous découvrirez que Jésus les fait asseoir sur de l'herbe fraîche, dit l'évangéliste. Et il les rassasie. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Où est-ce que Jésus parle d'eau? Je ne sais pas, on peut penser à la Samaritaine par exemple. Je te donnerai l'eau si... Bon, je ne sais plus comment il lui dit, mais en substance, si tu recevais l'eau que je te donne, tu n'aurais plus jamais soif. Voilà. Avec ce don de l'esprit. Voilà. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre, précisément, par le don de l'esprit. Il me conduit sur le juste chemin et me fait... Il me conduit sur le juste chemin, alors je ne connais pas tout à fait par cœur, il me fait revivre, il me fait passer les ravins de la mort, et on peut illustrer chaque passage de ce psaume par un élément de la vie du Christ. Vous voyez, je vous donne un exemple, moi aussi je fais comme Thérèse d'Avila, en direct, comment me placer avec un texte de la parole de Dieu dans la présence de Jésus. Voilà. Toi qui fais passer le ravin de la mort, je suis en train de vivre une épreuve, une difficulté dans mon travail, dans ma famille, fais-moi passer ce ravin. Je ne sais pas comment ça va se passer, je te fais confiance, je sais que tu peux me faire passer, fais-moi passer, toi le ressuscité, toi qui as franchi la mort, toi qui es ressorti du Jourdain, toi qui m'as fait ressortir des eaux du baptême et dont je vis déjà de la vie éternelle, vous voyez. Tu dresses la table devant mes ennemis, dit le psaume 22. Voilà. Fais que la nourriture que je reçois à la table de l'Eucharistie me donne d'aller dans la charité jusqu'à aimer mon ennemi. En tout lieu, nous recevons le corps du Christ. C'est ça que ça veut dire, qu'on peut comprendre. J'habiterai tous les jours de ma vie. J'habiterai sa maison tous les jours de ma vie. Non. Oui, c'est le psalmiste qui dit ça. J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est comme ça que se termine le psaume 22. Et là, de découvrir qu'en fait, Jésus, non seulement il va me donner d'habiter dans la communion du Père, mais en fait, c'est lui qui maintenant vient habiter chez moi. Regardez ce qu'il fait chez Zachée. Voilà. Vous voyez comment on peut travailler avec notre intelligence, notre mémoire, et elle est pleine. Si on veut bien la faire travailler, elle est pleine de la vie du Seigneur, de passage de l'Évangile, de passage de la Bible. Simplement, elle a besoin, en général, au début de l'oraison, d'être stimulée. Elle a besoin d'un point de départ. Vous voyez? Alors, évidemment, ça peut paraître une méditation. Or, pour arriver à ce temps de communion, à cet acte de foi, il faut passer la méditation. C'est-à-dire que de la méditation, vous voyez, de ces quelques connexions qui peuvent naître à la lecture d'un passage de l'Écriture, il faut que je puisse moi-même parler à celui en présence de qui je me tiens. Et lui-même prononcer un jeu. Tu es venu visiter Marthe et Marie à la mort de Lazare. C'est vrai ça. Je vis un deuil. Viens me visiter. Ça, c'est le passage de la foi. Mais si nous avons l'idée, alors que nous vivons un deuil, de dire dans notre prière « Viens me visiter », c'est bien, vous voyez, sur sa parole. C'est bien à cause de ma connaissance de la personne du Christ, à cause de cette relation que j'ai. De la même manière que vous avez un ami qui est bricoleur, vous avez un problème, vous allez l'appeler pour faire un bricolage chez vous. Voilà. Eh bien, il faut que dans la foi, en la personne de Jésus, en son humanité, vous croyez qu'il a rejoint tous les domaines et tous les niveaux de notre vie humaine pour pouvoir vivre tous ces niveaux avec lui. Alors, la fois prochaine, je vais m'arrêter pour laisser un temps de questions, comme j'ai promis, le mois prochain, j'aborderai la question des distractions. Et je vais l'aborder maintenant, parce que en faisant travailler la mémoire, forcément, il y a d'autres choses qui viennent. Et puis, est-ce que je suis sûr que ce que j'ai mémorisé de l'Évangile, c'est bien Jésus? Est-ce que, vous voyez le détail, moi, quand j'ai relu Matthieu, je me suis dit, bah oui, Jésus sur la montagne, il voit la barque. Puis quand j'ai regardé de près, j'ai vu qu'en fait, dans Matthieu, il ne voyait pas la barque. Alors je me suis dit, d'où me vient cette idée que Jésus voit la barque alors qu'il est en train de prier? En fait, ça me venait de l'Évangile de Marc. Alors le travail de raison n'est pas un travail de vérification, c'est un travail de la mémoire. Et à un moment, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter pour se tenir à la présence. Mais il peut y avoir des distractions, des choses qui nous emmènent au-delà, finalement, de Jésus. Il y a deux types de distractions. Avec la terminologie de notre cher curé, il y a des distractions farfelues. Bon, et ça, la abstractions farfelues, on en a plus, on en aura toujours, bah, elles sont tellement farfelues et tellement énormes, voilà, il faut accepter humblement qu'on les ait et nous recentrer sur Jésus. Et puis, nous avons les distractions qui sont liées au concret de notre vie. Et bien, ces distractions-là, souvent, elles sont le révélateur que nous avons précisément pas offert, confié, remis à Jésus ces points précis qui nous reviennent de notre vie. Alors, je prends un exemple. J'ai été agacé par tel ou tel. Ça me revient tout le temps. Je ne peux pas prier. C'est trop, ça m'agace trop. Et ça me revient, et ça me revient. Et plus j'y pense, plus j'y repense. Et plus j'y pense, plus ça m'agace. Et plus ça m'éloigne du Seigneur. Mais c'est peut-être que, précisément, je n'ai pas prié pour cette personne. Avant déjà de lui pardonner. Je n'ai pas remis à lui. Oui, cette personne m'énerve. Oui. Ben Seigneur, cette personne, je viens avec elle à la prière. Je ne pense qu'à elle. Donc je viens avec elle à la prière. Voilà. Et je la confie à ta prière. Alors à mon tour, moi, je peux penser à autre chose. Vous voyez ? Mais, petit exemple bête, mais souvent nos distractions de la vie courante, mais je reprendrai peut-être un peu en détail la fois prochaine, mais les distractions de la vie courante sont souvent des domaines de notre vie que nous n'avons pas encore prié. Voilà. Parce que certes, nous nous tenons en compagnie de Jésus. Certes, nous avons besoin pour nous tenir en la compagnie de celui qui nous aime, de repenser à des événements de sa vie. Mais, évidemment, c'est nous-mêmes dans notre vie présente que nous sommes en présence de Jésus. Et donc, c'est bien notre vie présente que nous avons à lui communiquer, à lui partager. Et c'est bien pour nous aider, pour nous stimuler à lui partager et à communier avec lui sur notre vie présente, il nous faut découvrir dans sa vie à lui ce qui rejoint ma vie présente. La prière n'est pas une prière qui nous éloignerait de ce que nous vivons. Au contraire, elle consiste à approcher Jésus avec ce que nous sommes, ou plutôt, ou les deux, à laisser Jésus s'approcher de ce que je vis. Voilà, je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Alors si, mais il y a une chose que je n'ai pas dite, qui me paraît importante, et c'est à cause du temps de Noël que je voulais vous dire ça. Ils se prosternèrent devant lui, nous dit l'Évangile dans la barque. Je voyais, il ne devait pas y avoir beaucoup de place. Et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. L'acte de foi est un acte de reconnaissance de la personne du Christ. Et quand je dis en ce moment, c'est l'actualité, parce que nous avons vu à Noël les bergers se prosterner devant l'enfant. Et nous allons voir, dimanche prochain, les mages adorer l'enfant. Et comme je vous disais, l'acte d'adoration est cet acte de foi en tant que tel qui nous donne l'âme. Et là, il y a une belle phrase du catéchisme de l'Église catholique. On ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en reconnaissant la présence Dieu dans l'enfant. Vous voyez, c'est une jolie formule pour montrer que c'est bien l'humanité du Christ en tant que telle. C'est pas ses mots, c'est pas ses miracles, c'est l'enfant. C'est le bébé, celui qui ne peut précisément rien faire, c'est Dieu en lui. Et c'est donc par lui que nous avons accès au Père, et seulement par lui. Et c'est seulement par lui, avec lui et en lui, que nous pouvons prier de notre Père, les mots mêmes qu'il nous donne. Il nous prête ses mots, ou il nous donne d'être frères, vraiment avec lui, pour nous tourner vers le Père. C'est vraiment par lui. Et donc, cet acte de foi, qui peut paraître difficile, enfin, voilà, devant une personne, hein, devant une personne humaine, devant la personne de Jésus, eh bien, c'est cet acte d'adoration qui nous donne d'atteindre Dieu, nous dit le catéchisme. Et j'aime bien me rappeler moi-même cette parole, et puis berger image. Voilà. C'est-à-dire du plus bas de l'échelle de la société au plus haut. Tous. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a les disciples, mais voilà, il y a les deux extrémités, à la crèche, qui sont rassemblées. Voilà, cette fois-ci je m'arrête. Alors, toutes les questions sur ce que je viens de dire, sur ce que nous avons pu voir la fois précédente, toutes les questions sont possibles. Après on verra ce qu'il y aura comme réponse. Mais voilà, on peut prendre un temps de questions maintenant, avant de prier ensemble. Alors je répéterai dans le micro ce que j'entendrai. Il n'y a pas de question idiote, hein, mais ça peut être sur le temps, voilà. Il n'y a pas de question, c'est incroyable. Pourtant c'est vous qui avez fait ça. Oui. Ah oui, alors je parlerai des distractions, je parlerai aussi des dons du Saint-Esprit. Je ne parlerai pas le fait de fermer la porte. Alors, je vais vous faire une petite parabole inventée, bien connue, qu'on raconte dans les séminaires d'entreprise où on veut que les cadres soient plus efficaces. Si vous avez un pot et que vous avez à côté, vous devez remplir ce pot avec des cailloux, des graviers, et du sable. Si vous commencez par mettre le sable, vous êtes sûr que vous n'arriverez jamais à tout mettre. Pour pouvoir tout mettre dans ce pot, si on vous dit qu'on peut tout mettre, eh bien il faut commencer par les gros cailloux, il faut ensuite mettre plus petit, et ensuite le sable qui se glisse entre les autres. Et là vous arrivez à tout faire tenir. Et bien dans une journée, quand vous savez qu'il va être difficile de fermer la porte et de vous retirer pour la prière, bien c'est peut-être que vous n'avez pas considéré ce temps comme un gros caillou. Dans votre agenda, il est nécessaire de placer les gros cailloux et ensuite les autres. Et c'est vrai, j'en fais l'expérience, si je repousse ou je reporte ce que je commence par faire habituellement, la prière du matin, extrêmement difficile de retrouver un moment dans la journée. Alors je vous réponds, vous voyez, de manière très terre à terre. Mais c'est important de l'entendre. Il faut placer ce qui est fondamental, ce qui est la fondation de notre vie, de notre journée, en premier. Sinon, c'est évident qu'il y aura plus la place. Une multitude de petites choses qui ont toute leur importance les unes des autres, et en fait qui auraient trouvé tout leur accomplissement, toute leur. Toute leur plénitude dans ce ressourcement initial et primordial. Voilà. On peut dire, oui, alors après, attends, enfin je termine juste une petite chose, pareil, d'une manière très terre à terre, il y a le fait d'ordonner, en fonction de l'importance de nos choix, l'expérience montre que beaucoup des petites choses que nous avons accepté de faire passer après, même si elles nous préoccupaient, elle se règle pendant ce temps de l'attente. Voilà. Ce qu'on n'a pas réglé tout de suite, ce qu'on n'a pas voulu placer en urgence en faveur de quelque chose de plus important, l'expérience montre que quand finalement on va s'en approcher, il y a des choses qui finalement ont été réglées. Voilà. Pensez dans votre vie courante, en tout cas, moi je pense à des tas de petites choses, mais bon, ça d'accord, ça présente, ben, finalement ça a été fait. Voilà. Ou ça s'est réglé. Ça arrive pour les petites choses. Alors que jamais pour les grands. La prière, personne ne peut vous le régler à votre place, tout seul. Et oui. Oui. Alors. Quelle est la place de la parole de Dieu dans la raison, mais quand elle est déjà commencée, vous voyez, quand il y a déjà cette relation, alors qu'on est, bon, on a besoin, on est un peu, c'est un peu sec, on va dire, et pour réalimenter. Alors, autant je pense qu'il est important matériellement de lire, Thérèse d'Avila dit qu'il faut faire toujours oraison avec un livre, vous avez rappelé le Père Lemoine. Oui, il est important de lire quelque chose, je pense que c'est nécessaire au début de l'oraison, au début du temps. Après, le premier travail, c'est celui de la, de la mémoire, c'est revenir en pensée. Si ce n'est pas suffisant, si on n'y arrive pas, là, il faut reprendre le livre. Mais effectivement, quelquefois, de se remettre en présence de Dieu simplement en pensée, en se remémorant ce qu'on a déjà lu, ça suffit. Et quelquefois, ça ne suffit pas. Ben, si ça ne suffit pas, on peut reprendre le livre, il n'y a pas de problème. Mais, vous voyez, si on le reprend tout de suite, on peut effectivement risquer de couper un contact qu'on a déjà et qui de toute façon est sec, en fait. Qui de toute façon est sec. On ne sent pas quand on est en... Et on ne peut pas juger d'ailleurs de son contact. Donc, l'exercice consiste à rejeter un regard, à se réélancer vers le Seigneur, bien souvent on n'a pas besoin de reprendre, parce que le problème de reprendre le texte, c'est que ça nous replace dans une réflexion, dans la méditation, voilà, ça peut finalement nous couper, alors qu'on n'est pas bien juge pour savoir si le contact ou pas a été établi. D'ailleurs, ça ne nous appartient pas. Donc, je vois très bien ce que vous voulez dire. En pratique, on fait comme on peut. On fait comme on peut. En tout cas, ne nous appuyons pas sur ce ressenti. Le ressenti de sécheresse n'est pas suffisant pour dire que je suis déconnecté. Même plutôt au contraire. Voilà. Parce qu'on peut aussi avoir un sentiment de bien-être, être rejoint par Dieu, quand on a compris, on a fait une trouvaille, j'allais dire, sur l'Évangile, en fait, on n'a toujours pas posé un acte de foi. Alors que dans notre cœur, par notre intelligence, on est super content parce qu'enfin, on avait compris un truc qu'on n'avait pas compris. Voilà. Cette joie-là, tant qu'on n'a pas remercié, merci Seigneur pour cet éclairage, je t'aime, mais ça ne se transforme pas en élan vers lui, vous voyez, on n'est pas rentré. Donc voilà, là j'ai pas une réponse, comment dire, de technique assurée. C'est pour ça que c'est fatigant ce travail de l'oraison. Quand on fait oraison, on mange plus. C'est pas une blague. Ça prend des calories de faire oraison. C'est normal, pas que ça vous inquiète. Il y a des gens qui se sont mis à faire en raison, qui ont maigri. Voilà. Ça a changé quelque chose dans leur vie. Ça nous pompe, on dit. Je sais pas comment. C'est normal. C'est pas que ça vous inquiète. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jusqu'à 10h moins 5, on va augmenter un petit peu notre temps. On avait fait 20 minutes, on peut faire peut-être 25 minutes. Oui, c'est ça. Et ensuite, je proposerai, si vous voulez, à ceux qui veulent, une question, peut-être deux questions, pour avoir un petit échange pratique. Voilà, ça peut aider certains, comme je vous l'ai écrit. Donc voilà. Et les deux questions, ça sera comment je choisis mon passage de l'écriture, ou pas, quelle lecture je prends pour prier. Comme ça, ça peut être un échange entre ceux qui le pratiquent déjà et ceux qui ne le pratiquent pas. Et puis la deuxième, c'est comment, parce que ça je ne l'ai pas abordé, et ça pourra réveiller d'autres questions. Comment je termine ma prière? Donc, c'est à la fois personnel, c'est sur mon expérience de prière à moi, et puis, mais en même temps, c'est, voilà, le contenu n'est pas, enfin, vu que c'est pas de s'étaler, mais c'est plutôt de voilà, de céder dans notre expérience, comme bien entendu sur comment revenir à notre enfance, c'est quelque chose de genre de l'expérience. On peut peut-être s'éclairer, donc je demanderai ceux qui veulent, on verra s'il y en a qui souhaitent ça, et puis à ce moment-là on prendra à 10h-5. Voilà, merci. Oui. Oui. Alors, il y a. Oui, bien sûr. Oui. Il y a différentes formes de prière. Il y a les actes de présence de Dieu qui prennent des formes et qui sont donc spontanées. Alors vous, ça peut jaillir comme ça, comme un psaume dans votre salle de bain, et il peut y avoir des... Ça peut jaillir, voilà, une petite pensée en voyant l'église quand on passe de Vaugirard, une petite pensée en voyant telle personne qu'on a pu voir à la messe, vous voyez. Peu importe ce qui nous stimule, ou une parole de l'évangile qui nous revient. Donc ça, c'est ces actes de prière, de présence de Dieu, de petit échange. Vous voyez, comme on échange deux mots avec une personne qu'on croise dans un escalier, mais qui n'est pas la personne qu'on va voir. Vous voyez, parce qu'on est en train de faire autre chose. On est en train de se laver les dents, de marcher dans la rue, de porter un dossier dans un autre bureau. Enfin, voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est les suites d'une vie de prière. On a ça normalement quand on a une vie de prière. Mais une vie de prière, elle doit être objectivée. De la même manière qu'il y a l'Eucharistie dominicale qui irrigue notre semaine et qui est un lieu objectif de présence de Dieu, je dois objectiver ma prière subjective. Et je peux y être porté naturellement. C'est-à-dire que naturellement, je peux me dire « je vais prier ». Parce que j'y suis porté et donc je ferme ma porte très facilement, etc. Tant mieux. Dans ce cas-là, faites attention à la durée de votre prière. Pour l'objectiver, il faut choisir sa durée, pas en fonction de mon état, mais en fonction de ce que je peux maintenant donner au Seigneur. Si au bout des 20 minutes que j'ai décidé, j'ai envie de continuer, si j'ai choisi 20 minutes, je m'arrête. Je m'arrête. Parce que j'ai choisi et je fais ce que j'ai choisi. C'est le moyen, si vous voulez, d'objectiver et donc de nous attacher dans la foi à ce contact qu'on a pris avec Dieu, plus que sur mon ressenti. Quand j'ai décidé de prier 20 minutes et qu'au bout d'un quart d'heure, j'en peux plus, eh bien même si je regarde ma montre toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, je m'y tiens. C'est l'épreuve de la foi. Voilà. Donc, quand spontanément on est porté à prier le soir, super. Mais si maintenant on n'y est pas porté, je vous invite à objectiver, parce que c'est le seul moyen, vous voyez, de la sûreté finalement de notre foi qui s'attache à Dieu et pas à ce que j'expérimente, qui peut me tromper, qui parfois ne me trompe pas. Parfois, ce que j'expérimente, ce que mes sens me donnent, c'est véritablement Dieu. C'est une grâce de Dieu, une grâce sensible. Ça arrive. Il y a même des gens qui pleurent quand ils prient. Même des gens qui ont l'impression qu'une demi-heure dure une minute. Ça peut nous arriver. C'est des grâces habituelles que Dieu donne. Mais ce n'est pas des grâces... C'est des grâces habituelles dans le sens où elles arrivent fréquemment dans la vie chrétienne. Comme prêtre, en tout cas, ça nous est rapporté souvent. Par contre, c'est pas habituel dans le sens où Dieu les donnerait régulièrement. Voilà. ça nous est donné quand on en a besoin. Voilà. C'est ça qu'il faut croire. Mais il ne faut pas nous y attacher. Il faut nous attacher à lui. Et lui, malheureusement, nous ne le ressentons pas. Il peut nous donner d'être ressenti, vous voyez la différence. Mais il n'est pas dans sa nature que nous le ressentions, nous. Vous voyez ? Donc voilà. Parce que je réponds à mais bien souvent, quand on en a besoin, et quand on lui demande, par exemple, après une période où on a un peu moins prié, qu'on leur demande de repartir, bien souvent, il nous fait cette grâce de plus facilement prier. Voilà. Et c'est après ce petit démarrage, ce petit coup de pouce, que souvent il faut persévérer. Voilà. Là, il y a un... Et puis, si on recommence, il peut nous refaire une grâce. Vous voyez, il peut nous refaire grâce, mais... L'acte de foi n'est pas sensible, même si nous le sommes, et même s'il passe par nos sens, par notre parole, par notre regard, par notre attitude. Voilà. Bien. Alors, allons-y. Les autres questions seront pour la fois d'après.